RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est la troisième heure des GG, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi, bien sûr, avec aujourd'hui Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire, Fatima Hidbounois, la professeure de français, professeur en collège, et puis nous sommes avec Antoine Diers, le consultant juridique. Troisième heure des GG, on va commencer en accueillant celui que l'on surnomme le justicier du métro.
RMC, face aux grandes gueules.
Il s'appelle enfin Christian, bonjour.
Bonjour.
The King TV, hein.
The King TV.
The King TV sur TikTok, plus de 800 000 abonnés.
En tout, plus de 800 000 abonnés, oui.
Et vous êtes le justicier du métro parce que vous avez une drôle de méthode, c'est-à-dire dès que vous apercevez des pickpockets,
exactement.
Eh bien, vous les filmez, vous les interpellez et vous les aspergez. On a les petites vidéos, on écoute.
Yo, bienvenue sur votre chaîne The King TV. On se retrouve, mesdames et messieurs, pour un nouvel épisode où je traque les pickpockets sur Paris. Là, elle est en train de voler sous son sac avec sa main droite.
Attention, les pickpockets.
Et c'est la même pickpocket que j'ai chopé dans l'épisode précédent.
Pickpocket.
Oh, mais pas pickpocket.
Pourquoi t'arrêtes pas de voler? Pourquoi t'arrêtes pas de voler? Sors ici, là. Sors.
Laisse-moi encore arriver sur moi.
Pourquoi t'arrêtes pas de voler? Pourquoi t'arrêtes pas de voler? Arrêtez de voler, les gens.
Arrêtez de voler les gens et vous les marquez avec un spray. Oui, vous l'avez sur vous, le spray, c'est un spray de couleur, c'est ça?
C'est juste pour les marquer, pour les identifier.
Mais pourquoi vous avez décidé de devenir ce justicier de TikTok alors?
Bah justement parce que j'ai été victime moi-même, tout simplement. Je créais du contenu avant et j'ai acheté ma petite trottinette, une grosse trottinette à 3 500 euros qui m'a été volée. Je l'avais garée, je l'avais placée devant un supermarché. Puis en sortant, 30 minutes après, on me l'a volée. Donc là, ça a fait mal. Et aussi, quand je vois aussi d'autres influenceurs dans d'autres pays, les
en
exposer.
En Grande-Bretagne, notamment.
Exactement.
Oui, enfants,
oui. À Londres, en Espagne. Enfin, pas en Espagne, plus en Italie. Et les influenceurs qui les exposent. Et là, je me suis dit, pourquoi pas les exposer aussi en France, vu que moi-même, j'étais victime. Donc voilà, c'est là où je me suis lancé.
Et comment ça se passe alors? Vous descendez tous les jours dans le métro?
Pas tous les jours, vu que je travaille à côté. Je suis gestionnaire de paye. Donc ce que je fais... 2 à 3 fois par semaine, je descends dans le métro avec ma petite équipe, on les traque, si on en trouve, on les filme.
Mais vous les filmez, vous les dénoncez, vous en parlez à la police, comment ça se passe?
Alors ce qui se passe, il y a certaines fois où ils sont très violents, et en ce moment-là je porte plainte, et si jamais il n'y a eu rien, je les attrape, si j'arrive à les attraper, j'appelle la police, si j'arrive pas à les attraper, je les filme juste, par la suite je publie.
D'accord, et vous êtes déjà affronté avec eux? Ouais.
C'est déjà arrivé, et là c'est plus avec les mecs de Bonto qu'on est en train de voir. Eux ils sont
le
très Bonto, violents.
Ce sont ceux qui sont à côté de la Tour Eiffel.
Exactement.
Sur le Champ de Mars, et qui font le coup avec les cartes.
Voilà, ils ont 3 gobelets avec
les
balle,
gobelets, voilà.
Ils font tourner, par la suite ils cachent la balle dans leur main, et toi tu n'y vois que du feu, et par la suite tu crois que tu vas gagner. À tous les coups tu perds.
Ouais, ouais.
Et ils sont très organisés. Il y a un groupe de 7 qui essaient de jouer, de gagner et de perdre en même temps.
Mais c'est légal ce que vous faites ou pas?
C'est légal parce que j'essaie juste de prévenir les gens, tout simplement.
Et ils vous remercient?
Énormément. Je reçois beaucoup de messages. Après, il y en a certains qui m'envoient des messages, des menaces. Ça, forcément, c'est les pickpockets ou les mecs de Bonto qui font ça.
Ouais.
Mais d'une manière générale, je reçois toujours des bons messages de félicitations.
Fatima.
Merci.
Quand on regarde vos vidéos, il y a un côté ludique, amusant. Il y a même un côté spectacle. Il y a limite le côté Pokémon. Attrapez les tous, vous courez, on l'a déjà celui-ci, et puis vous marquez. Donc on peut même en sourire et à côté se dire, enfin ça nous fait du bien aussi parce qu'il y a le côté un ras-le-bol de l'impunité. Parce que moi-même j'ai été volée, on m'a volé ma carte bleue à Châtelet et je m'en voulais terriblement parce que je me demandais mais comment c'était dans mon sac, comment elle a fait. Et finalement, en parlant avec le policier, il m'a dit mais madame, cette femme-là parvient à voler, elle avait volé dans le slim, pantalon slim d'un passager. Donc imaginez un slim, sa carte, enfin dans son portefeuille était collé contre ses fesses. Elle a pu le voler sans qu'il s'en rende compte. Donc il y a la dextérité de la personne. Donc premier mouvement, c'est ça, un soulagement. Puis on a envie de vous remercier parce que bah, vous donnez de votre personne. Maintenant, quelles sont vos limites à vous? Parce que c'est mine de rien, il y a plusieurs choses. Est-ce que eux ont déjà porté plainte? Parce que oui, on est en France.
Eh oui.
Donc est-ce que c'est arrivé le fait que vous les tâchiez comme ça? Est-ce que vous avez déjà eu ça? Et ma deuxième question est comment vous travaillez avec la police, parce qu'il y a un gros problème derrière. C'est là, c'est bien. Vous nommez, vous prévenez, mais les gens sont encore là et demain vous allez venir. Qu'est-ce qui se passe justement? Il y a le côté interminable. Donc comment vous travaillez avec la police et quelles sont les limites que vous vous mettez, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire comme vous, mais aller plus loin et faire comme les gens qui chassaient des pédocriminels et qui ont tabassé des personnes par exemple.
Alors, donc Christian,
voilà, comment vous posez des limites?
Alors, moi, personnellement, les limites que je pose, c'est les limites physiques. J'aime pas trop aller plus loin, les agresser physiquement. Eux, par contre, eux, ils le font. J'essaie juste d'éviter les coups. Je me limite vraiment à ce niveau-là. Le but, c'est de les exposer et non de promouvoir la violence dans mes vidéos. D'accord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le côté drôle. Je fais en sorte que ça soit un peu comique, mais en même temps, les exposer. Avec la police, ça se passe plutôt bien. Parce que quand je les appelle, quand ils interviennent, ils essaient de comprendre ce qui s'est passé pour interpeller celui qui a tort. Et dans la plupart des cas, c'est eux qui ont tort. Déjà, ils sont en train d'escroquer les gens ou voler les gens. Mmh. Et par la suite, m'agresser moi, donc ils sont arrêtés.
Et sur le spray, est-ce que vous avez déjà eu la mauvaise surprise, finalement, d'être poursuivi en justice?
C'est parce que vous les aspergez de spray coloré.
Jusque-là, non, pas encore. Mais il y a eu un de mes potes avec qui j'ai tourné les vidéos. Lui aussi a sa chaîne YouTube. Mais lui, par contre, on lui a porté plainte.
Ouais, voilà.
Parce que c'était la fois où j'ai été agressé, où j'ai eu une blessure au niveau du crâne. Lui aussi, il a été agressé légèrement. Mais les pickpockets, enfin les scammers, ceux qui font du bon dos, l'ont porté plainte. Et aujourd'hui, c'est en cours de traitement.
Ils ont porté plainte pour quoi, eux? Pour agression. Ah d'accord.
Vous voyez, c'est un peu le monde à l'envers.
Antoine Dier, ça.
Moi, j'ai découvert les vidéos de Christian aujourd'hui. J'étais passé à côté. Je suis pas sur TikTok, etc. Et j'ai effectivement trouvé ça top. Je me suis dit, j'attends de voir à quoi ressemble Christian. Et effectivement, vous êtes plutôt balèze. Parce que chapeau, bravo de faire ce que vous faites. Moi, je suis moins
certain. Ta carrière aurait été plus courte.
Voilà, je suis moins certain de pouvoir le faire, même si à chaque fois que je vois quelque chose, je dénonce, je dis attention, je peux aider quelqu'un, j'essaye de le faire. Mais vous y allez avec une exposition physique. Voilà, on sent que vous tenez bon, vous tenez le choc. Donc, bravo, chapeau. Alors, on est dans un pays formidable où j'imagine qu'il va y avoir des gens pour dire ah non, quand même, il a pas le droit de faire ça, etc. Ben non, c'est juste le comportement du citoyen.
Citoyen.
Voilà, comportement civique. Et tous les citoyens sont invités à dénoncer les infractions et à les faire cesser dans la mesure du possible. Et donc aujourd'hui, vous êtes parfaitement dans les clous de la loi, surtout avec ce que vous venez de nous redire juste avant, que vous voulez éviter la confrontation physique, etc. Donc vraiment, je pense qu'en fait, on devrait tous se comporter comme ça. Et je me dis souvent dans le métro, si on avait tous réagi, si on s'était tous levé, on aurait fait cesser ces petites incivilités du quotidien.
Alors, est-ce que parfois vous vous sentez un peu seul dans le métro au moment où vous faites ça? Ou les gens, au contraire, vous donnent un petit coup de main et vous aident et repoussent les pickpockets au moment où vous les repérez?
Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui est intervenu, seulement des merci de loin. Mais moi, je pense que je demanderai à tout le monde de participer, en quelque sorte.
Ouais, parce que vous êtes seul à chaque fois à le faire.
À chaque fois, je suis seul avec ma petite équipe. Si jamais ils sont nombreux, une fois, c'est arrivé où vous étiez environ 30. Ce jour-là, j'étais seul, j'avais pas ma petite équipe avec moi. Du coup, j'ai pas intervenu. Du coup, ils ont bien fait leur travail et je suis parti du métro. Vu que j'étais seul.
Ils étaient combien? 30?
Environ une trentaine. Une quinzaine de sur ce qui est là et une quinzaine de l'autre côté. Donc, j'ai pas pu intervenir parce qu'ils étaient trop
nombreux. Mais les gens vous croient, quand vous dites attention pickpocket, les gens vous croient ou pensent que c'est une blague?
Il y en a qui rigolent, ça amuse certains, et d'autres qui connaissent mes vidéos le prennent
en
sérieux.
Et donc ils savent que c'est sérieux.
Il y a certaines vidéos que j'ai regardées rapidement où il y a quand même des gens qui hésitent à s'interposer entre vous et le pickpocket. Ils comprennent pas, il y a des gens, ils ont des attitudes.
Ils comprennent pas qui est le bon et qui est le méchant.
Qui agresse la jeune
fille, souvent.
Justement, quel est le profil? Qui sont-ils, ces pickpockets? Ce sont des réseaux, c'est ça?
Ouais, c'est ça ma question. Là, maintenant, en regardant toutes mes vidéos, je pense vraiment que c'est un grand réseau. On va dire peut-être une famille, parce que je remarque les mêmes têtes que j'ai attrapées sur les épisodes précédents qui reviennent et qui s'associent avec d'autres que j'ai déjà vues. Donc je me dis, c'est une grande famille qui s'organise pour...
Ce sont des réseaux qui viennent des pays de l'Est, c'est ça, essentiellement, ou pas?
Essentiellement, on va dire, ils viennent pour ne pas dire des bêtises, on va dire Roumanie ou Bulgarie, des trucs comme ça.
Ouais.
Je connais pas trop la précision vu qu'ils le mentionnent pas.
Ouais.
Donc,
Qu'est-ce que vous dites avec les policiers quand vous discutez avec eux? Parce qu'en fait, effectivement, depuis toutes ces années, c'est toujours un peu les mêmes ouais. réseaux que l'on retrouve dans le métro.
Et c'est terrible, même les mêmes gens. Alain, c'est même les mêmes gens. Ils sont pas sanctionnés. Il y a des mineurs qui vont ressortir très vite et qui vont retourner dans le métro.
Parce que là, c'est intéressant. Vous dites, il y a une jeune fille que vous retrouvez régulièrement. On la voit dans la vidéo. Donc, elle est pourtant interpellée par les policiers.
Il y a des fois.
Allez-y, Christian, je vous en prie, finissez.
Des fois, ils sont interpellés, mais ils ressortent juste après. Tout simplement parce qu'ils sont mineurs.
Et puis une heure de garde à vue.
Mais moi, personnellement, quand je cible dans mes vidéos, je cible plus les adultes qui sont là, qui les animent en ce moment-là.
Il y en a qui supervisent.
C'est ça, exactement.
Parce que c'est ça, moi, qui m'intrigue là-dedans. On a bien vu, c'est une mafia organisée. Il y a des adultes autour d'adolescents. Quand vous dites, moi, je veux pas aller jusqu'à la violence physique, jusqu'à quel point, il n'y a pas un jour où vous mettrez votre vie en danger, quoi. Il n'y a pas un jour où le réseau organisé, il va vous reconnaître et il va vous voir arriver, quoi. Je présume que quand vous dites une petite équipe, il n'y a pas beaucoup de cure-dents dedans et tout le monde est un peu costaud parce que je pense que vous êtes en train de vous exposer, quoi. Quand ça se médiatise, quand ça se...
Le but, c'est plus de les exposer, comme vous avez dit. Ouais. C'est vraiment de les exposer, faire des vidéos, même si je me mets en danger, je suis conscient de ça, mais je fais plus attention. Avant, j'étais un peu ignorant des conséquences qu'ils pouvaient avoir, du coup, je faisais moins attention, mais là, maintenant, c'est plus le cas. Je fais plus attention, j'ai ma petite équipe, une équipe bien solide.
Combien vous êtes? Vous avez un garde du corps avec vous?
Oui, j'ai, Loïc. Quand même,
vous avez un gros bras, des gros bras.
Ouais, exactement. Il est un peu balèze, imposant, donc il fait un peu peur. Du coup, si tout le monde intervenait, ça serait une bonne chose, parce que il existe quelque chose qu'on appelle une arrestation citoyenne. Oui, c'est-à-dire, tu vois quelqu'un voler, commettre un délit, tu peux l'arrêter, appeler la police. Donc, c'est complètement légal d'arrêter quelqu'un qui fait quelque chose de pas légal.
Ah oui. Donc, il faut savoir que la loi vous protège dans ces cas-là, quoi.
Exactement. T'as pas le droit de lui mettre une balle dans le genou pour pas qu'il se...
Non, mais ça, on va éviter quand même, mon cher Didier, ni mettre une grosse balle. Vous évitez. Ce que vous faites, c'est vous les signaler et vous les repoussez ou vous les faites sortir de la rame du métro à ce moment-là?
Et des fois, j'essaye, mais s'ils s'imposent, je les laisse partir. Et du coup, je ramène l'information à la police, ils sont présents. Ce qui arrive des fois, j'en croise aussi dans les métros. Dès que j'arrive dans un quai, j'observe. Des fois, je vois les policiers en civil. Eux-mêmes, ils me remarquent pas, des fois. Et des fois, ils me remarquent. Et du coup, dans ce cas-là, je change de quai. Je laisse la police faire son travail.
Parce que vous dites, vous êtes gestionnaire de paye. C'est votre métier.
Exactement, je le fais à temps partiel.
Et c'est sur votre temps libre, en fait, que vous faites ça.
Exactement.
Pickpocket, c'est son sport.
La chasse au pickpocket.
Exactement, ça me fait faire mon cardio.
Combien de fois dans la semaine?
Ouais,
il a dit trois fois.
Dans la semaine, je le fais trois fois. Si j'ai vraiment beaucoup de temps, je le fais quatre fois. C'est-à-dire, très souvent vendredi, samedi. Des fois dimanche, ça arrive rarement.
Et combien de temps dans le métro pour avoir toutes ces vidéos?
Généralement, je commence à midi 13h jusqu'à 17-18h.
Ouais,
ils sont pas là tous les jours non plus.
D'accord.
Enfin, j'en vois pas tous les jours, mais je sais qu'ils sont là. Parce que des fois, j'arrive à rentrer dans le métro, je les vois à l'extérieur. Et je me dis, là, je les ai ratés. Quand je reviens, je les retrouve plus.
Ouais, perdu. Et il y a des lignes.
C'est qu'avec le temps, ils vont vous connaître aussi.
Exactement, ils me reconnaissent. Il y en a pas mal qui me reconnaissent.
Mais après, en même temps, votre existence et vos vidéos, c'est aussi l'aveu d'un gros dysfonctionnement. Parce que si vous dites, vous êtes là, finalement, vous voyez toujours les mêmes. Vous faites votre possible, mais finalement, vous prévenez les gens. Alors, tant mieux pour les gens qui tombent sur vous.
Et
avez prévenus, mais ils peuvent être très bien dans un autre métro et on règle rien. Peut-être que vos vidéos peuvent donner envie d'un engagement citoyen. Vous parlez d'arrestation citoyenne. Mais,
judiciairement, il se passe rien pour ces gens. C'est ça qu'il faut qu'on dise quand même.
Parce qu'on entend tous les jours, on peut pas prendre le métro à Paris sans entendre, attention, des pickpockets sont présents dans votre rame.
On en est arrivé dans le métro à enregistrer en quatre langues des messages qui te préviennent qu'il y a des pickpockets plutôt que de régler le problème. Si vous nous dites c'est une famille qui gère le truc, il me semblerait qu'il y aurait quelque chose de plus simple à faire que d'enregistrer des messages.
En station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone.
Beware of pickpockets.
Achtung vor Taschendieben.
Voilà.
Achtung vor Taschendieben. Non mais c'est un truc de fou qu'on soit arrivé à faire ça sans jamais régler le problème en fait, quoi.
Oui. J'ai une dernière question parce qu'il y a une mode sur Internet aussi et sur TikTok qui ressemble à la vôtre où il y a une bonne intention mais qui a été un peu dévoyée totalement. C'est les gens qui se filment en train de faire la manche ou d'aider quelqu'un qui est à la rue. Donc ça part pareil d'une très bonne intention. Donc voilà, ils se filment, ils se mettent un peu en scène, ils profitent un peu de ça. Et des fois ils font des cagnottes, mais il y a eu, on leur a reproché de mettre en scène la misère, d'exploiter un peu la personne, de pas. Est-ce que vous avez eu, c'est quoi les reproches que vous entendez le plus en ce moment?
Moi, c'est certains messages que je reçois. Hein. Dans les commentaires, il y a, comme on dit, on peut pas mettre tout le monde d'accord. Il y a toujours certaines personnes qui disent t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de les exposer, de faire ceci. Sauf que si je les expose pas, on saura pas qu'ils existent, qu'ils sont vraiment là.
Mais en termes de droit à l'image, est-ce que vous avez le droit, c'est ça aussi?
Oui. En termes de droit à l'image, je les floute. Mais ceux qui ont été vraiment violents avec moi, donc j'estime qu'ils me doivent quelque chose en ce moment-là, je les floute pas.
Et puis de toutes les façons, lieu public,
il n'y a pas de droit à l'image.
Lieu public, on peut filmer tout le monde, ouais. mais seulement si la personne est ciblée.
Voilà.
Ouais. Dans la vidéo, en ce moment-là, la personne est concernée.
Mais quelles sont les lignes, en fait, où il y a le plus de pickpockets? Parce que maintenant, vous devez le savoir, quand, en fait.
Ouais, il y a plus de pickpockets. Ouais, il y a plus de pickpockets sur la ligne 8, 12, la ligne 1 et la ligne
La 5 12. Aussi, non?
Alors, la 5, j'ai jamais, enfin, ah pas ouais. encore été.
Pourquoi, comment vous l'expliquez, ces lignes? Alors, la 1, c'est celle qui remonte les Champs-Élysées, notamment.
Voilà. La 1, c'est pour les touristes qui sont blindés, plein d'argent.
Et quand il y a du monde, ouais. c'est leur terrain de jeu.
La 8, c'est celle qui va vers le Champ de Mars, qui va vers l'Assemblée nationale, notamment.
Il y a beaucoup de passagers, beaucoup de touristes qui portent des sacs à dos, qui ignorent qu'il y a des pickpockets à côté.
Et la 12, elle va vers les gares aussi, vers la gare Montparnasse, les centres commerciaux. Et donc, c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils sont les lignes où il y a le plus de passages, quoi.
C'est ça. Et plus dans les stations où il y a des correspondances. Parce qu'ils ont la facilité de s'échapper. Vraiment, là où il y a des correspondances, faut faire attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui se positionnent.
Et nous, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Alors, ces pickpockets. Même s'il y a les messages, on se dit, tiens, où est-ce qu'ils sont? Ils ont des signes reconnaissables, des tenues, je sais pas, des sacs.
Alors, bizarrement, ils s'habillent tous presque de la même façon. Pour mieux voler. Des fois, il fait chaud. Ils ont toujours, on va dire, une veste sur la main. Histoire de cacher quand ils volent. C'est-à-dire, ils montent la main avec la veste, ils passent la main en dessous, et ils volent sans que tu t'en rendes compte. Et très souvent, ils ont des sacs en bandoulière. Justement, pour voler, ils montent le sac, et en dessous, ils passent leur main pour voler.
C'est plus des filles ou des garçons?
Très souvent des filles, mais il y a toujours deux ou trois garçons à côté, trois mecs à côté, histoire de surveiller ce qui se passe. Si jamais il y a quelque chose, ils interviennent. Mais moi, généralement, avec mon équipe, vu qu'on est, on va dire, imposant, ils interviennent rarement. Mais c'est arrivé des fois qu'ils interviennent violemment.
Voilà, vous avez fait connaissance avec The King TV sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Il poste ses vidéos. C'est Christian qui était avec nous. Bon, on pourrait presque l'appeler le shérif du métro parisien. C'est
le remercier.
Voilà, et il expose les pickpockets. Ensuite, il les marque avec son spray qu'il a juste devant lui. Là.
Et on va essayer sur Didier Giraud tout de suite.
Ce petit spray, c'est un honnête homme. Merci d'être venu dans les GG, Christian. Merci
beaucoup.
Dans un instant, on change radicalement de sujet. On va en parler avec vous. C'est un rapport de la Cour des comptes, qui nous dit il y a plus de gens qui meurent aujourd'hui d'une maladie contractée à l'hôpital que d'un accident de la route. Et en plus, les hôpitaux ne déclarent pas ou très peu leurs fautes, leurs erreurs médicales. Ben pense un peu, parce que sinon derrière, ils seraient sanctionnés. Allez, 32-16 pour venir en discuter avec les GG. L'hôpital, je ne sais pas si on peut encore lui faire confiance, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules, avec vous bien sûr, avec Fatima Hidbounoua, avec Didier Giraud, avec Antoine Dier, c'est vous qui prenez la parole au 32-16. Je propose qu'on regarde un rapport de la Cour des comptes sur les erreurs des hôpitaux, les erreurs médicales.
Alors, comment ça va-t-il ce matin?
On est en forme, on a fait un gros dodo. Comment il va, monsieur Corticoïde? Pardon, monsieur Galibert.
J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu me dises que je suis hors de danger, que mon état va s'améliorer. Que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant.
C'est me force à croire que t'avais... C'est un rapport de la Cour des comptes. Plus de gens meurent d'une maladie contractée à l'hôpital que d'un accident de la route. En fait, le rapport analyse les erreurs médicales, les soins inadaptés ou tardifs, les prescriptions inappropriées de médicaments à risque et ce qu'on appelle, vous savez, les infections nosocomiales, c'est-à-dire les maladies que l'on attrape à l'hôpital. En 2024, 7200 incidents recensés officiellement pour un nombre, d'après la Cour des comptes, réel d'événements, ce qu'on appelle indésirables, qui serait supérieur de 20 à 50 fois. par exemple, lors d'une opération, une erreur de 50 fois plus important.
Ah oui,
oui 50 fois plus important. Non, non, 50 fois plus important. Un nombre réel d'événements indésirables graves, 20 à 50 fois plus important. Oui, c'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes.
Ah oui,
et dans ces cas-là,
bien,
parmi les erreurs, alors il y a le mauvais médicament, il y a aussi l'objet oublié dans le corps du patient, l'écart entre les événements. La loi doit être respectée. La loi spécifie que la déclaration d'événements indésirables graves est obligatoire pour les hôpitaux. Vous rappelez que 13 millions de patients sont soignés chaque année. Donc en fait, ce rapport de la Cour des comptes nous dit aujourd'hui que quand tu vas à l'hôpital pour te faire soigner, bah, il faut que tu saches que tu prends ton risque. Alors est-ce que ça nous inquiète? Est-ce que ça nous rassure? Surtout, qu'est-ce qu'on doit faire? La réparation des préjudices évitables, réhospitalisation après des soins ratés, indemnisation, s'élèverait à plus de 11 milliards d'euros. Le montant des soins inutiles ou à faible valeur, 22 milliards. Donc il y a des économies à faire à ce niveau-là et des obligations légales que ne respectent pas les hôpitaux. Mon cher Didier Giraud.
Écoute, j'avais dans un coin de ma tête qu'il y avait plus de morts de maladies nosocomiales que de gens sur la route. Ça, c'est quelque chose que je savais. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien savoir derrière ce rapport, c'est si c'est un problème de compétence ou si c'est du je m'en foutisme ou si c'est que les soignants fonctionnent dans des conditions qui sont dégradées. Enfin, à un moment donné, c'est la cause qui m'importe. Tout le monde a forcément une histoire dans son entourage de maladies nosocomiales, de mauvais diagnostics, enfin, ça arrive partout, tout le temps. Mais moi, ce que j'aimerais bien que derrière la Cour des comptes, on aille identifier, c'est si les soignants sont incompétents ou s'ils n'ont pas les moyens de faire leur travail comme il faut. Parce que pour moi, c'est pas la même cause et ça produit pas les mêmes effets, même si on fait le constat que ça coûte cher et que ça provoque des morts. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin dans l'identification des causes, quoi.
Vas-y.
Moi, ce que j'allais dire, c'est, je pense que c'est pas qu'en France, que c'est partout à l'hôpital où en fait tu balances pas l'infirmière, le médecin qui a fait une erreur et tout le monde fait ça restera entre nous et évidemment ils travaillent
dans des conditions. Tu essaies de la réparer, de soigner.
Voilà, ils travaillent dans des conditions compliquées. Mais... Si t'as fait des gardes, des machins, des trucs, c'est une science délicate, la médecine. Un coup de bistouri, et hop, t'ouvres une artère au lieu de couper au bon endroit. Ça se joue à quelques millimètres. Est-ce que t'es absolument fautif? Est-ce que l'humain peut avoir une médecine parfaite? Malheureusement, je pense.
C'est un peu ce qu'on attend quand tu mets ta vie ou ta vie partielle.
Et pardon, mais l'erreur existe.
Quand tu vas à l'hôpital,
l'erreur existe.
Ouais, mais pas et dans alors, telle proportion. Non,
alors attends, ensuite
7000 par 50 pour 50 fois.
C'est très caché. Mais donc, est-ce qu'on accepterait que
je suis ton raisonnement. Si à ce moment-là il y avait la transparence totale. Tu vois, c'est-à-dire que si chaque année tu avais un rapport qui te disait voilà dans tels hôpitaux, parce qu'on t'a le rapport toujours des meilleures cliniques, mais tu vois, tu aimerais savoir aussi là où il y a le plus d'erreurs, là où il n'y a pas les bons diagnostics,
si
et ça tu devrais le savoir.
Si t'as un classement, t'auras encore plus de trucs cachés. Mais au garage.
Non, tu
t'amènes ta voiture au garage, tu repars, elle fonctionne moins bien qu'avant.
Si tu veux ça, on se passait le mot de savoir quels étaient les bons et les mauvais garagistes.
Le garagiste, il va toujours te dire. Ah non, c'était comme ça et tu sauras jamais. Et en fait, l'erreur dans tous les métiers, elle existe. C'est plus gênant à l'hôpital, je suis d'accord. Mais t'arriveras jamais à avoir la transparence.
Fatima, et puis ensuite on écoute Olivier au 32-16.
On disait que l'armée était la grande muette, mais la grande muette, c'est aussi finalement le secteur de la santé. Parce que tu dis l'erreur est humaine. Bien sûr, l'erreur est humaine. Mais cacher l'erreur, c'est autre chose.
Ouais, désolé. Ça, c'est volontaire, c'est la loi du silence.
La question, c'est pas de est-ce qu'on peut se tromper ou pas. Bien sûr qu'on peut se tromper. Ce sont des êtres humains, bien entendu, dans quelles conditions ils travaillent et tout. Mais pour moi, le fait de cacher quelque chose, parce que derrière, il y a des gros sous. Il y a la question des indemnisations. Parce qu'une erreur où on fait croire que c'était pas complètement une erreur
et la personne.
Et des fois, les gens perdent. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des maladies nosocomiales, c'était le fils de Depardieu qui avait perdu sa jambe. monde, carrément. Donc, quand on dit maladie nosocomiale, c'est un peu flou.
Il en est mort, d'ailleurs, de ce staphylocoque.
Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça ne va pas nous empêcher d'aller à l'hôpital parce qu'on n'a pas le choix, de toute manière. Donc, on ira, on doit se faire soigner. Ça ne nous empêchera pas d'avoir confiance parce qu'on est bien obligé à un moment, mais ça sera une confiance contrôlée. Ça veut dire qu'effectivement, moi, j'ai une confiance contrôlée. Ma mère est hospitalisée en ce moment. Effectivement, j'y vais le plus possible. J'y vais tous les jours. Et j'essaye de regarder. C'est-à-dire, quand il y a des prescriptions, je me renseigne. Je ne peux plus, parce que je sais très bien que c'est vite fait. Et il y a des erreurs. Il y a des erreurs de transmission. Il y a, tiens, elle doit faire une opération. Elle devait être à jeun. Ah, ben, on lui a apporté à manger. Elle peut plus faire l'opération. Des petits trucs. Alors, c'est pas trop grave pour, là. Mais quand c'est des maladies très graves, elle, c'est une maladie grave. Effectivement, si elle attrape une maladie nosocomiale en plus, c'est foutu pour elle. Donc, effectivement, moi, je comprends l'envie des gens. C'est pas une transparence parce qu'on est, tiens, on veut tout voir. C'est une transparence parce que si dans un hôpital, on voit un nombre anormal de problèmes, c'est comme ça qu'on a repéré que celui qui faisait semblant, là, qui injectait, le médecin. Qui voulait faire des prouesses et puis qui cette affaire là, on a repéré qu'il y avait un problème parce qu'il y avait un taux anormal de mort pendant l'anesthésie.
L'anesthésiste.
Voilà, l'anesthésiste, la fou. Ben, ça a permis de repérer ça.
Il est passé en procès d'ailleurs.
C'est ça, c'est-à-dire l'erreur est humaine, mais un taux anormal d'erreur, ça.
Non mais là c'est caché. C'est ça, c'est ce que dit le rapport des comptes. C'est un, c'est caché. Deux, ça coûte énormément d'argent. Trois, ils ne respectent pas la loi en ne déclarant pas aujourd'hui leurs erreurs. C'est ça qui est problématique.
Ça c'est un peu juridique, mais faut pas qu'on bascule non plus comme
dans la psychose,
comme,
c'est pour ça que je dis confiance.
Non, mais comme dans les restaurants, dans la République des avis, quoi. Où tous les restaurateurs t'expliquent qu'aujourd'hui ils ont des chantages à la vie.
C'est pas un avis.
Non, mais là, c'est pas
ce qu'on demande. Ce qu'on demande à l'hôpital.
Une notation, ça résume à la vie.
C'est pas ça. Ce que dit la Cour des comptes, c'est que vous devez déclarer quand vous avez fait des erreurs.
Non, mais c'est pas d'accord avec toi.
C'est pas le patient lambda qui ensuite.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je décris
un emoji sur Google en disant qu'est-ce que j'ai été bien soigné avec le pouce levé, le sourire.
Et moi, je parle de la méfiance, mais je parle de la confiance. Je parle de confiance contrôlée. Je suis pour. On va pas arriver. Tiens, sur Google, on m'a dit que j'avais que c'était grave ce que j'avais. Je vous conteste, moi je parle pas de ça, je fais confiance aux médecins.
Mais ça, c'est tous les jours que les médecins voient.
On a Olivier au centre de 16. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour les GG.
Vous vouliez témoigner pourquoi Olivier, dites-nous.
Alors, moi je suis en procès avec le CHU de Limoges et notamment la directrice que je vais nommer, hein, Madame Mocker Pascal, qui, voilà, j'ai eu. Je suis tombé de mon fauteuil, je suis un paraplégique. Me suis fracturé le col du fémur. Et suite à ça, première opération qui réussit pas. Bon, c'est aléa thérapeutique, il n'y a pas de discussion. Sauf que derrière, un interne me propose une prothèse de hanche. Je conditionne cette prothèse de hanche à l'avis des deux médecins rééducateurs qui me suivent. Ce médecin ne prend pas avis auprès de ces deux rééducateurs et me laisse entendre que oui, c'est bon, il m'opère. Sauf que derrière, maladie nosocomiale, 2 ans d'hôpital, 10 ans d'opération, 2 ans supplémentaires, 2 ans supplémentaires à l'IT à domicile. J'étais 100% autonome, maintenant je suis dépendant. Pour obtenir mon dossier médical, 2 ans de procédure, 2 procès, 2 condamnations du CHU par le tribunal administratif. Ils sont allés jusqu'au Conseil d'État. Il y a une procédure qui est encore en cours et il y en a une qui a été définitivement validée par le Conseil d'État.
Tout ça parce qu'on vous a opéré sans avoir votre consentement.
Maladie nosocomiale durant l'opération.
Ouais, mais en fait, ce que vous nous décrivez, c'est le pot de fer contre le pot de terre.
C'est ça.
C'est ça. Mais sauf qu'ils sont tombés sur un os parce que moi, je vais me battre jusqu'au bout. Et j'ai la chance d'avoir un avocat qui me suit à fond parce que le CHU, bien sûr, c'est une bardée d'avocats partout, Limoges, Bordeaux, Paris, puisque Conseil d'État, etc. Et le problème, c'est que c'est pas les médecins qui cachent. Moi, j'ai eu affaire à un interne qui s'est pris pour Dieu, ok. Mais si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à un médecin du CHU, le docteur Lalloz, je le nomme aussi parce que c'est grâce à lui que je suis en vie, grâce aux infirmières, grâce aux autres médecins que j'ai vus. Mais lui, je lui en veux à mort à ce médecin parce qu'il a gâché toute ma vie Et le pire derrière, c'est que la direction du CHU couvre tout ça.
Ah oui.
Voilà, c'est ça. C'est,
on cache.
C'est ce que dénonce la Cour des comptes, en fait. C'est le non-dit, c'est la loi du silence et c'est la non-déclaration de ces événements qui sont intervenus.
C'est le même problème que ce qu'on disait pour l'éducation nationale, avec ou pour le périscolaire. C'est le pas de vague. On essaye de cacher, donc soi-disant, pour pas alerter les gens, mais c'est parce qu'il y a des gros sous derrière. Parce qu'il y a des gros sous derrière d'indemnisation. Et parfois, ces erreurs-là, vous voyez, un truc tout bête, il y a un homme qui a été, ça a fait un scandale, qu'on a opéré et qui a perdu la vue suite à ça. Mais parce que quand il est arrivé, il venait juste pour un petit contrôle de routine. On l'a pris pour un autre patient. Et le médecin n'avait pas vérifié, n'avait pas demandé son nom juste avant. Il allait, non, mais on va vite et tout ça. Il a perdu la vue. Parce que derrière le mot erreur médicale, on entend comme une erreur, on dirait une faute d'orthographe. Erreur médicale, c'est des vies qui sont fracassées.
Bah justement,
c'est quand même un sujet énorme. Quoi.
Puisque c'est un sujet énorme, et je remercie Olivier de ce témoignage poignant. Écoutez, là j'ai l'impression qu'on on est en train de lever un couvercle.
Ah bah oui.
On me dit qu'au 32-16, le nombre de témoignages qui arrivent... Ouais. Assez dramatique d'ailleurs, comme celui d'Olivier, de gens qui disent merci, de nous permettre de parler de ce combat aussi que l'on mène, qui peut être un combat judiciaire, combat juridique, face à une institution, parce que finalement l'hôpital c'est une institution qui ne sait pas reconnaître ses erreurs.
Et quand on est encore vivant pour le mener ce combat, parce que des fois ça mène à la mort.
On va continuer d'en discuter, ce rapport de la Cour des comptes. Avec qui précise aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop d'erreurs médicales avec des impacts terribles et qui ne sont pas déclarés ensuite par les hôpitaux. Il faut rectifier tout ça. Bon, on va continuer d'en discuter avec vous au 32-16. Dans un instant, Michel, il est retraité, aide-soignant. Les erreurs, selon lui, elles sont aussi dues au manque de personnel, au rythme qu'il y a dans les hôpitaux.
Ouais, c'est ça.
Midi moins 25, à tout de suite avec les grandes gueules au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Plus que jamais, on vous donne la parole dans les GG, dans les grandes gueules, au 32-16, parce que quand vous voulez témoigner, bah vous le faites savoir. Et là, c'est ce qu'on nous dit au standard, en évoquant ce rapport de la Cour des comptes sur les erreurs médicales, les soins inadaptés, les prescriptions inappropriées et le fait que la Cour des comptes reproche aujourd'hui aux hôpitaux une espèce de loi du silence.
Sous-déclaration.
Voilà, une sous-déclaration de tous ces accidents, de tous ces incidents, de tous ces problèmes. C'est Nora qui veut en parler avec nous, tout comme Michel. Michel qui est retraité, aide-soignant. Bonjour Michel.
Bonjour.
Est-ce que finalement ce rapport de la Cour des comptes, il vous surprend ou pas sur cette non-déclaration des incidents à l'hôpital?
Ben non, pas du tout. C'est quand il se passe des choses. Moi, ma femme travaille en hôpital général. Moi, je travaillais en psychiatrie. Mais quand il se passait des choses, tout n'était pas noté. Et le manque de personnel, quand vous êtes dans un service, vous avez une infirmière, un aide-soignant, vous avez 5 ou 6 retours de bloc, des soins à faire, il faut courir, vous prenez pas toujours toutes les bonnes...
initiatives.
Les bonnes initiatives.
Toutes les bonnes... Oui, mais c'est terrible.
De toute façon, c'est dans tous les métiers, la pression amène l'erreur, mais ne pas reconnaître et nier lors d'un procès pour couvrir, c'est quand même pas la même gravité, quoi, Michel.
Ouais. Mais c'est comme ça que ça se passe, hein.
Ça veut dire, Michel, que votre épouse ou vous, il y a des fois, vous dites, mince, désolé, c'est terrible, mais on signale pas.
Si on signale. Aussi, moi, j'ai eu un malade, il est décédé, il a fait une fausse route. Une fausse route, bon, c'était en psychiatrie, hein.
Ouais.
Parce que il avait été prendre du pain, il avait piqué du pain, et pendant que je m'occupais d'autres patients, il s'était gavé. Et il est mort étouffé. Donc ça a été signalé. Puisque on a appelé le médecin, tout le monde est venu, tout ça. Mais après ça va pas plus loin, quoi.
Ouais, mais ça veut dire que si quand la famille demande précisément ce qui s'est passé, vous le dites ou pas?
Ben, moi, c'était en psychiatrie, il n'y avait pas vraiment de famille, il n'y avait plus personne qui venait voir.
Okay. Parce que c'est ça, en fait, quand la famille, ou quand le patient lui-même se retrouve dans un état qui a été provoqué par une erreur de soins, il ne le sait peut-être pas. Le témoignage précédent,
quand ça va jusqu'au Conseil d'État, parce qu'on ne reconnaît pas la faute, pour moi, c'est un grade supplémentaire dans la négation et dans ce qui est abject, en fait.
Après, dans ce que dit Michel, la chose qui est terrible, où on met les soignants aussi dans une situation terrible, c'est que là, par exemple, si, pour le cas que vous devez décrire, on leur tombe dessus en disant défaut de surveillance, alors qu'ils n'ont pas les moyens humains
d'exercer une vraie surveillance.
Vous voyez, il y a ça aussi. Et c'est là où finalement cette question-là, moi je suis pour la transparence, je suis pour qu'on dise, qu'on s'intéresse aux causes et à la possibilité d'exercer son métier. Parce qu'il y a plein de soignants qui vont dire, moi je me retrouve dans une position où je suis maltraitant. Et la question des burn-out, elle est là. Le burn-out, on pense toujours que c'est parce que j'ai trop de métier, enfin j'ai trop de travail. C'est pas la question du trop de travail. C'est quand on veut faire son travail bien, mais que nous oblige à le faire mal et quand on travaille avec de l'humain, c'est insupportable de devoir bâcler une toilette ou de ne pas pouvoir changer quelqu'un, voyez, pour
Pour ouvrir un tout petit peu le débat sur un autre aspect du sujet, c'est qu'effectivement, on a le sentiment qu'on irait vers une judiciarisation toujours plus lourde, complexe de la médecine. Et ça me fait penser au modèle américain, où en fait, tu fais des procès quand l'opération a échoué et tu vas chercher des milliards d'euros et donc les médecins doivent être surassurés et quelles conséquences à la fin ? Juste l'aggravation du coût de la médecine pour les gens.
Oui, non, mais
donc, vrai sujet.
On n'en est pas là.
Ça va même plus loin que ça, Antoine. Tu dis
qu'on ne veut plus accepter le chirurgien. L'erreur humaine, c'est ce que tu dis, toi. C'est ton raisonnement.
Il y a deux choses. Sauf que quand tu as une vraie erreur, il a oublié une serviette, une compresse, voilà, dans le corps. Voilà, là, l'erreur, elle est factuelle. Mais après, je pense que c'est une science qui est inexacte et on peut se batailler pendant des plombes à savoir si il fallait faire cette méthode sur l'opération ou l'autre et que en fait tu laisses de l'espoir à des gens, bah ça s'est mal passé pour eux et tu leur dis on va vous reconstruire une vie en faisant un procès.
Très récemment il y a un bébé qui est décédé et qui c'était une infirmière qui a confondu un produit, le produit qu'elle devait injecter, un produit de nettoyage.
Les embouts ne devraient pas être les mêmes, voilà. Déjà, tu vois.
Et elle a confondu. L'enfant est mort. Tu penses bien que les parents, ils ont besoin d'une réponse, ils ont besoin d'une.
Mais donc là, c'est pas caché, on sait qu'elle a fait une.
Voilà. Les erreurs, c'est ça.
Il y a quand même la problématique de la judiciarisation. Le médecin, le chirurgien qui m'a opéré de la hanche, m'expliquait qu'on parlait du fait que, et son métier et le mien avaient des crises de vocation. M'expliquait que dans la crise de vocation qu'il y a des chirurgiens en France, il y a le coût de l'assurance.
Bah voilà, ouais.
Pour répondre à ce que tu décris, Antoine, il est arrivé en fin de carrière. Oui, mais il m'a expliqué comment l'assurance, quand on est chirurgien, ambulatoire, on va pas opérer à cœur ouvert, on coupe des os, on met des prothèses, son assurance, elle avait triplé sur les 5 dernières années là, alors qu'avant son assurance de l'exercice de ses fonctions, c'était quelque chose qui coûtait cher mais qui était abordable. Et aujourd'hui, ça devenait tellement inabordable qu'il m'expliquait que ça provoquait des crises de vocation parce qu'il y a une judiciarisation de la médecine qui fait que un avocat t'attend comme c'est aux États-Unis sur les marches de l'hôpital en disant tout s'est bien passé dans votre opération.
Il y a l'opération, il peut y avoir les complications inhérentes à l'opération parce que le corps réagit mal, bien avec toutes les précautions que tu peux prendre.
Et les erreurs cachées, c'est un autre système.
Voilà, c'est un autre niveau. Là, ce qui est vraiment mis en avant par la Cour des comptes, ce sont les erreurs, ce sont les défauts. Et cette loi du silence, on est en train de la découvrir et elle se chiffre en milliards, puisque derrière, comme c'est pas déclaré, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'indemnisation. Alors que ça pourrait justement normalement profiter, et je mets au bon sens du terme, au patient. Nora, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vouliez réagir, Noah, de Haute-Corse, dites-moi pourquoi.
Oui, tout à fait. Bah, effectivement, moi j'ai eu, en fait c'est le drame de ma vie en fait. Hein. Donc il y a 13 ans, donc mon fils est né en janvier et son papa est décédé en septembre dans un hôpital en Corse. Donc moi je suis vraiment en plein dedans et j'ai vécu des choses. Maintenant, je ne vais pas rejeter la faute sur les soignants, sur les aides-soignants, sur les infirmières, ce n'est pas du tout. Moi, c'est vrai que dans ma situation, c'est le médecin en tant que tel. Ça veut dire que déjà, mon mari, en fait, il voulait rentrer à l'hôpital pour des maux de tête et des maux de ventre. Donc, il a été amené, en fait, dans une clinique, et de la clinique, comme c'était un plateau technique, il a été envoyé directement vers l'hôpital. À l'hôpital, il a été pris en charge. Donc, dès qu'il a été pris en charge, en fait, on l'a monté dans un secteur que nous, en fait, on surnomme la bobologie. Et donc, vous savez que le matin, ce sont les soins et vous pouvez y aller qu'à partir de 13h30. Moi, ayant un bébé, donc voilà, vous imaginez bien donc l'organisation. Donc, je montais voir mon mari régulièrement. Et comme le médecin était déjà passé, quand je demandais aux infirmières, ils disaient, ben non, nous, on ne peut pas vous dire, il faut vous adresser directement au médecin. Le médecin est où? Ah ben, vous aviez qu'à arriver tôt. Déjà, ça commence comme ça. Deuxième chose, j'ai mon mari donc allongé, je lui dis... Ça va, qu'est-ce qu'il y a eu, etc., etc. Donc il me dit, écoute, j'ai énormément mal à la tête. Il se met un t-shirt qu'il sert et là je découvre en fait, non pas par ni les infirmières, ni les médecins, ni rien, je découvre en fait par le monsieur à côté, le patient à côté, de tout ce qu'on lui a fait. On l'a emmené, on l'a descendu, il a fait ça. Votre mari cette nuit il s'est levé, il y a eu ça, il souffrait des maux de tête. Enfin voilà, je découvre tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je monte au créneau, ce qui est normal. Et donc, je dis, écoutez, puisqu'il se serre la tête, etc., je pense qu'il vaut mieux, en fait, passer par une IRM. Donc, il se passe. Donc, on me dit, non, du tout, on va faire un scanner. Sauf que, on demande, donc, elle demande à quelqu'un d'autre qui est neurologue de gérer la chose. Le neurologue dit, écoutez, moi, je veux bien, mais il faut lui faire un scanner avec injection. On lui fait un scanner sans injection. Donc, je dis, ben, on va passer à l'étape supérieure. On va faire directement l'IRM, comme ça, on verra ce qu'il a. Donc, bien sûr, elle me refuse la chose. Je me dispute avec elle à un moment donné. Et là, Elle veut me bloquer la chambre. Elle me dit que je suis quelqu'un d'énervé, de...
Il nous reste 30 secondes, pardon, Nora. Allez-y, oui, finissez. Allez-y,
finissez dans 30 secondes. Ce qui se passe, oui. Et ensuite, donc, mon mari décède 3 jours après. Quand mon mari décède 3 jours après, tout le monde se met à pleurer dans cet hôpital. D'accord. Je suis accueillie, puisque téléphone sonne, donc je suis accueillie, moi, à l'hôpital. Tout le monde pleure, la sécurité, le machin.
Et vous avez enclenché une action judiciaire?
Tout à fait. Il y a une action judiciaire, parce que j'ai porté plainte contre l'hôpital. Et en fait, j'ai demandé à ce que l'autopsie se fasse, en fait, par un médecin qui n'est pas de l'hôpital, puisqu'il y a des médecins, en fait, dans cet hôpital qui peuvent être aussi, qui peuvent faire des autopsies. Et comme sur les deux, il y en avait un qui m'avait accouché, donc du coup, j'avais dit non. Donc, du coup, c'est un médecin de Nice qui était venu. Et quand le médecin de Nice est venu.
Et alors, quel est le résultat? Pardon, parce qu'il va falloir qu'on arrête la discussion.
Qu'est-ce qu'il avait?
Alors, mon mari, en fait, moi, j'ai découvert ça. C'est qu'en fait, en souffrance, pendant ces 3 jours, la souffrance a été tablée, donc à 5 sur 7. Et mon mari, en fait, a eu quelque chose de sous-dural qui, pendant 3 jours, est monté jusqu'à la tête. Il a eu un caillot et ensuite, il a fait, voilà,
et
il est mort.
Et ça, il ne l'avait pas vérifié, il ne l'avait pas vu.
Et ça, il ne l'avait pas vérifié, ça n'avait rien fait. Sauf que moi, je me suis battue contre eux. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont téléphoné, en fait, au monsieur qui a fait l'autopsie, au docteur qui a fait l'autopsie.
Ouais, pour changer
ils lui ont téléphoné pour récupérer, en fait, le rapport.
Voilà. Et essayer de le cacher du coup. C'est ça.
Exactement.
C'est Nora, écoutez, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est vous témoigner de tout notre soutien. Oui. En plus, dans une épreuve qui date de 2013 et qui a duré avec les procédures judiciaires. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Visiblement, il y a énormément de témoignages. Julie qui voulait témoigner aussi de ce qui lui était arrivé en 2019. On me dit que le standard est en surchauffe sur ses erreurs à l'hôpital et le fait qu'elle soit cachée. Bonjour, ma chère Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Dans un instant, on va parler d'une très mauvaise nouvelle. C'est pour tous ces Français qui se chauffent au gaz, plus 50% de hausse sur les factures. Et encore, ça ne prend même pas en compte les conflits en Ukraine et en Iran. 50% de hausse, c'est entre 700 et 900 euros de hausse par an pour tous ceux qui se chauffent au gaz. Et ce qu'il faut arrêter dès maintenant avec les chaudières, avec les cuisinières à gaz, qu'il faut aider les Français aujourd'hui à passer à l'électrique. On en parle avec vous dans un instant. Au 32-16, on parlera de la tradition du muguet le 1er mai. Mais offrir du muguet pour vous, est-ce que c'est un plaisir ou une grosse arnaque? C'est que cette année, le petit bouquet de muguet, c'est 7,50 €. Ben, c'est quand même énorme. Surtout pour une fleur qui, au bout de 2 heures, est déjà toute marron. Voilà.
Produire du muguet, il faut du gaz.
Oui, mais pour produire. Ah, oui. Vous savez que cette production de muguet n'est pas du tout écologique, Didier.
Ah, oui.
Ben, voilà, c'est très consommateur d'eau et d'électricité.
Et de gaz.
On parlera également du tutoiement, de plus en plus répandu dans la vie quotidienne. Il y a 60% des Français qui tutoient leur patron, 70% qui tutoient leurs beaux-parents. Est-ce qu'il faut en finir avec ces familiarités? Revenir au vouvoiement tout de même. Hein, Alain?
Pourquoi pas?
Oui.
Bon, ça apaiserait la société aussi.
C'est surtout notre génération qui est vouvoiement. Les jeunes, beaucoup moins. Et puis, le tu préfères.
On y va.
Tu préfères un lit 160 ou un Nice 180?
Bah là, je suis dans un 160, ça va
oui,
bien.
C'est bien 160.
Fatima, à 220. Allez, bonne émission avec Estelle et à demain 9h.